les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Poète, romancier et critique d'art, Marcelin Plénet est également connu pour être le directeur de la rédaction de la revue L'Infini chez Gallimard, après avoir dirigé la revue telle qu'elle aux éditions du Seuil. Cet homme, très discret, qui a beaucoup écrit et qui écrit encore beaucoup, a occupé pendant plus de 10 ans la chaire d'esthétique à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. En 2008, il a co-signé avec Florence Lambert un film consacré à sa vie et à son œuvre intitulé « Vita Nova » que l'on peut voir sans problème sur Internet et dans lequel il exerce avec bonheur son don d'ubiquité dans des temporalités, des lieux, des cultures, des textes, des images, des musiques et des sons extrêmement divers, vivants et beaux. Dans cette émission de 1984, il parlait avec Gérard-Julien Salvi de son livre « Fragments du cœur, vers et prose ».
Démarche, Gérard-Julien Salvi, Marcelin Plénet. Marcelin Plénet vient de publier « Fragments du cœur, vers et prose » aux éditions de Noël, collection L'Infini.
Comment donc avez-vous fabriqué ce livre ?
Je l'ai fabriqué en deux parties. D'ailleurs, je ne l'ai pas fabriqué, il s'est fait tout seul. Comme son sous-titre l'indique, il y a une partie de vers et une partie de prose. La partie de vers est censée manifester la pratique et la partie de prose est censée servir de démonstration technique et didactique. Initialement, ce qui ouvre ce livre, c'est une série de 36 poèmes sur la Pologne. C'est-à-dire qu'à l'origine de ce livre, il y a une émotion déterminée par un événement historique et politique précis que j'ai voulu faire passer dans le langage poétique sans pour autant que cet événement surdétermine le langage poétique, c'est-à-dire sans faire de la poésie engagée. Donc la question qui se pose était en quelque sorte comment faire aujourd'hui une poésie qui soit claire, qui parle explicitement d'un événement historique donné, sans que cette poésie soit strictement liée à cet événement et rabâche quelques lieux communs sur cet événement. Or, il se trouve que depuis pas mal de temps, je suis préoccupé justement par une chose qui, me semble-t-il, fait défaut à ce qu'on appelle généralement la poésie moderne, à savoir le sens explicite. La poésie moderne revendique souvent un sens implicite, voire même ésotérique, mais semble effrayée par le sens explicite. Or, dans cet événement, il y avait quelque chose qui, me semble-t-il, faisait sens explicite, et notamment pour les Français qui ont depuis toujours été attachés à la Pologne de multiples façons. Et ce qui faisait sens explicite, c'est qu'un pays qui est dominé par une puissance étrangère ou qui est dominé par une autorité qui le plie à sa mesure, et dans le cas de la Pologne, c'était une mesure militaire, ce pays perd en quelque sorte son identité. Il perd son identité pour devenir un lieu commun politique. C'est donc, au fond, le caractère général de l'événement de la prise du pouvoir par les militaires en Pologne que j'ai traité sous la forme de qu'est-ce que c'est que l'identité, qu'est-ce que c'est que perdre son identité, et qu'est-ce que c'est que l'identité d'un homme, qu'est-ce que c'est qu'un nom propre, qu'est-ce que c'est qu'une identité signifiante. Et j'ai été amené à constater que finalement, ce qui différencie un pays libre d'un pays asservi, eh bien, c'est que dans un pays libre, chacun peut revendiquer son identité et la revendiquer comme autonome et libre, alors que dans un pays dominé et dans un pays asservi, toute identité est pliée à la règle communautaire. C'est donc ce qui détermine le trajet de ce livre, qui va être composé entièrement autour de ce problème de l'identité et de ce problème du nom propre, et aussi entièrement, d'une certaine façon, ceci venant se relier à la question de la présence et du rôle, du sens en poésie, à travers la revendication de l'identité du poète et à travers la revendication du nom propre. Donc le livre est composé de deux parties, une partie de vers, la première partie de vers qui manifeste de façon affective et lyrique cette question de l'identité et de la perte de l'identité, et une partie de prose qui est censée être plus démonstrative sur cette même question, en faisant référence et en allant voir ce qui se passe chez quelques grands auteurs classique sur cette question de l'identité, et en essayant d'établir entre la poésie contemporaine et la poésie classique et l'histoire de la poésie un lien de continuité sous la forme de cette question de la revendication de l'identité.
Comment avez-vous choisi justement les occasions dans la seconde partie pour parler, c'est-à-dire que comment avez-vous fait votre choix?
Il s'est fait pratiquement tout seul. Il est bien sûr limité et il est bien sûr incomplet, d'où le titre Fragment. Il s'est fait tout seul à partir de ce sentiment qui est le mien, que l'histoire de la culture et l'histoire de la littérature ne sont pas constituées par des événements d'inscription de la littérature dans le corps social, mais par des événements tout au contraire de différence entre la présence littéraire, entre la force littéraire et la société qui l'accueille. C'est l'idée fondamentale, c'est qu'au fond, notre culture et notre littérature sont constituées par un ensemble de grands auteurs qui font monument, si l'on veut, et que cet ensemble peut être considéré comme un cœur dans lequel un nouvel auteur parvient à s'inscrire ou non. D'où le titre « Fragment du cœur », puisque précisément ce cœur est tout à fait incomplet par rapport à l'ensemble culturel. Pourtant, il est relativement significatif dans la mesure où il fait appel à 4 ou 5 quand même des plus grands monuments de la littérature mondiale et à au moins 2 des plus grands poètes français. Il y a un texte sur Dante, il y a un texte sur Shakespeare. On peut penser que ce sont vraiment 2 auteurs absolument qui viennent trancher dans la continuité littéraire et se manifester en tant que personnalité et en tant que revendication du nom comme tel de façon très forte. Et il y a par ailleurs, qui termine le volume, un texte sur Racine et sur Baudelaire. Je ne crois pas que ce parcours soit effectivement un parcours qu'on attende de la part d'un poète contemporain. Et c'est, me semble-t-il, en ce sens que ce parcours mérite d'être pris en considération en tant que tel. Il vient jouer dans l'histoire de la littérature contemporaine ce qui n'a jamais été joué, me semble-t-il, à savoir un effet de continuité sur la présence du langage poétique dans la culture. Présence du langage poétique dans la culture, non plus comme effet de rupture, mais comme effet de répétition d'une même unité et d'une même sorte de revendication.
Est-ce que le fait que la Pologne soit une nation sans territoire défini avait un sens poétique pour vous ?
Non.
Car c'est la particularité de la Pologne en Europe.
La particularité de la Pologne en Europe, ça a été d'avoir été, au cours de son histoire, envahie par l'Union soviétique ou par avant par la Russie assez régulièrement, n'est-ce pas ?
Et se déplacer d'est en ouest.
C'est ça. On peut dire qu'en ce sens, la Pologne continue à être logiquement partout et nulle part. J'ai d'ailleurs utilisé à ce propos le vers de pas le vers, mais ce qui sert d'introduction à Uburoi de Jarry, l'action se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part, en la renversant, en disant que précisément l'action se passe en Pologne, c'est-à-dire partout, aussi bien en France, et que cette question de revendication d'identité, elle est différente selon les contextes, mais elle est valable dans toutes les parties du monde. Et il n'y a pas eu de caractère poétique de fixation sur la Pologne, il y a eu un caractère émotionnel à partir d'un événement donné. À partir de deux événements donnés d'ailleurs, puisque en fait c'est parmi ces 36 poèmes, 35 portent sur la Pologne et un sur la tentative d'assassinat de Jean-Paul II à Rome.
Qu'appelez-vous la dimension vive ?
Eh bien précisément, la dimension vive, ça va être ce que l'on va pouvoir s'autoriser de liberté dans ses rapports avec les autres, et c'est-à-dire d'abord dans ses rapports avec la langue. Et cette liberté, eh bien, elle dépend selon moi du type d'impact et du type d'importance qu'on accorde à la possibilité d'utilisation de son nom. Il y a dans ce recueil un long, très long texte très subjectif sur Shakespeare, et notamment sur les sonnets de Shakespeare, et sur une partie des sonnets de Shakespeare qui me semble très importante, où Shakespeare joue avec son prénom, où il joue avec le Will de William, où avec le Will de William, il joue, et jouant, il fait de ce Will...
dans le sonnet.
Ce qui est courant dans le sonnet, mais ce qui est très très présent dans l'ensemble des sonnets, de façon comme dans aucune autre poésie. Et ce qui n'est pas courant, c'est qu'évidemment, ce will signifie à la fois volonté et testament. Eh bien, je crois, si vous voulez, que ce qui court tout au long de ce livre, c'est que si l'on est capable de considérer le rapport qu'on entretient avec son nom comme liberté, et comme volonté de cette liberté, on est capable également de penser ce rapport à ce nom comme testament, c'est-à-dire comme ce qui va au-delà de la vie et ce qui introduit, allant au-delà de la vie, dans la dimension vive du langage.
Est-ce que c'est la première fois que vous vous en prenez au nom ? Ou est-ce que c'est une chose qui vous torture depuis un certain temps ?
Non, je pense qu'on trouverait ça... Le Seuil va rééditer les trois premiers livres que j'ai publiés, qui étaient en voie d'épuisement, sous le titre « Les trois livres » le mois prochain. Et je pense qu'on retrouverait cela dans ces premiers livres. Le programme de ce qu'est et de ce que fut ma poésie a toujours été déterminé par le nom propre et par mon nom. Mais vous savez, c'est une chose vieille comme le monde, puisque Saussure retrouvait chez les poètes latins l'anagramme de leur nom propre, ce qui tente à démontrer que ce livre, qui se veut un livre sur la poésie et qui se veut un livre éclaircissant les problèmes poétiques aujourd'hui, s'inscrit précisément dans une tradition qui va bien au-delà des auteurs qui s'y trouvent traités.
Est-ce que lorsque vous écrivez, vous relisez vos livres précédents ? Quel rapport entretenez-vous avec eux ?
Aucun. Je les oublie aussi vite que possible. Malheureusement, jamais aussi vite que je voudrais.
Plus vite que ?
Beaucoup plus vite que. J'ai été amené à relire précisément pour la réédition de ces trois premiers livres, j'ai été amené à les relire et pour constater qu'effectivement, dès le début, ce qui m'a préoccupé en poésie, ça n'est pas la forme, mais le sens.
Est-ce que c'est ça votre singularité ?
Je pense, dans
votre génération.
Je pense que, pas seulement dans ma génération, mais je pense que dans le contexte poétique de la seconde moitié du XXe siècle, c'est certainement ma singularité, oui.
Que lisez-vous lorsque vous écrivez, dans les périodes d'écriture ? Quel type de lecture avez-vous ?
Oh, j'ai la lecture de tout ce qui tombe sur la table régulièrement, ou sur le paillasson, il y a d'ailleurs un texte dans le livre sur ce sujet, et j'ai les lectures continues de pratiquement toujours les mêmes auteurs. C'est pendant 4 ou 5 ans, j'ai lu régulièrement Bossuet, par exemple, chaque soir. Je lis très régulièrement Chateaubriand. Je lis très régulièrement, chaque soir, les classiques français. Saint-Simon, Bossuet, Chateaubriand, Baudelaire, si tant est qu'on puisse dire de Baudelaire, c'est un classique Racine, très très régulièrement chaque soir. C'est une espèce d'exercice vis-à-vis de la langue, c'est-à-dire confrontation de la langue parlée contemporaine avec l'histoire de la langue. Et à mon avis, pour moi, c'est extrêmement profitable. En tous les cas, c'est extrêmement jouissif.
C'est votre séance de gymnastique.
D'une certaine façon.
Vous entretenez aussi un rapport intime avec la peinture. Est-ce que ce rapport s'est modifié au fil du temps, entre votre travail d'écrivain et votre travail de...
Non, pas du tout. Et vous savez, ça n'est pas très exceptionnel. C'est même, je dirais, une tradition française. Cette année va être l'année Diderot. Et si on regarde la vie de Diderot, eh bien, on s'aperçoit que pratiquement, pendant les deux derniers tiers de son existence, il se consacre à la peinture et au salon. Il consacre pas tout à fait autant de pages à la peinture et au salon qu'à l'encyclopédie, mais presque autant, ce qui est énorme. Et ensuite, tout au long du 19e et du 20e siècle français, on va voir les poètes se préoccuper de la peinture et en parler, à mon avis, bien souvent avec beaucoup plus d'intérêt que les historiens qui leur sont contemporains.
Oui, mais chez vous, il y a toujours un équilibre des deux activités, contrairement à d'autres qui sont des poètes plus que mineurs et qui parlent sur la peinture ou maître. Oui. Comment vous entretenez cet équilibre ?
Je pense qu'il s'entretient tout seul. Je ne le calcule pas.
C'est dû à votre talent.
Je ne le calcule pas du tout. Les textes sur la peinture, vous savez, sont le plus souvent, pour moi, comme ils l'ont été pour Baudelaire, toute proportion gardée, ou pour Diderot, ce sont le plus souvent des textes de circonstances. Il y a énormément de textes de circonstances et il y a quelques textes que l'on a très envie d'écrire. Il y a quelques artistes sur lesquels on a très très envie d'écrire, mais la plus grande partie des textes sont des textes de circonstances. Si vous regardez les salons, vous apercevez d'abord que les salons eux-mêmes sont des circonstances, et même chose avec, on trouverait la même chose avec Baudelaire, on trouverait la même chose avec Apollinaire, ce qui fait qu'il y a une grande inégalité dans les textes sur la peinture, une très grande inégalité, et qu'en fait on ne peut pas les juger tout à fait comme les textes sur la littérature. Ils occupent une place tout à fait particulière, marginal, qui mériterait d'être traité un jour en tant que tel, aussi bien en ce qui me concerne qu'en ce qui concerne les autres écrivains qui s'y sont employés.
Est-ce que c'est un genre littéraire ?
Non, je ne pense pas, justement. Je pense qu'on y retrouve l'essentiel des qualités d'un écrivain, si ça me gêne de parler de moi sur ce sujet de façon très précise. Mais si vous prenez Diderot, vous y retrouvez toutes les qualités de Diderot. Vous y retrouvez même des qualités très intimes de Diderot. Vous y retrouvez des choses qui sont proches des lettres à Sophie Volant, par exemple, ce qui est assez curieux. Je crois qu'on y retrouve toutes les qualités d'un écrivain, dans la mesure où précisément cet écrivain ne le considère pas comme un genre littéraire. Ce qui le différencie du critique. Je ne suis pas un critique, n'est-ce pas ? J'ai toujours revendiqué d'être un amateur plus ou moins éclairé, mais pas un critique. Je ne suis pas un critique, même en littérature, je ne suis pas un critique du tout. Je suis un amateur, et le fond de ces textes, que ce soit les essais ou que ce soit la peinture, ce qui génère ces textes, c'est quelque chose qui distingue précisément le langage parlé de l'image, et qui fait que l'un ne recoupe jamais tout à fait l'autre, ne recouvre jamais tout à fait l'autre, et vient lui donner une dimension, un charme ou une saveur différente. Là, je pense que si on considère le rapprochement des textes de critique d'art et les rapprochements des textes de poésie, eh bien, il y a dans le passage de l'un à l'autre quelque chose qui vient donner au langage poétique et qui vient donner au langage littéraire une dimension qu'il n'aurait pas sans cela. Une dimension d'abord d'inscription dans l'actualité de l'image qu'il n'aurait pas autrement, et aussi sans doute une dimension culturelle qui ferait peut-être défaut aujourd'hui au langage poétique. Il est étonnant de voir comment la poésie moderne et contemporaine, plus particulièrement la poésie de la seconde moitié du XXe siècle, manque de références explicites, ou comment ces références sont extrêmement limitées. La peinture vient ouvrir cet effet référentiel, et j'ai voulu avec ce livre l'ouvrir également sur la littérature et sur un corpus littéraire qui est rarement évoqué par la poésie moderne.
Pourquoi n'écrivez-vous pas de romans ?
Eh bien, j'ai essayé plusieurs fois et je crois que je vais essayer à nouveau.
C'est une menace ?
Vous verrez bien.
Démarche, Gérard-Julien Salvi, Marcelin Plénet qui vient de publier Fragments du cœur, vers et prose aux éditions de Noël, collection L'Infini. Réalisation André Mathieu.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 avril 1984.